France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons cette semaine de la vengeance, de ses formes, des justifications dont elle fait l'objet, de son vertige souvent. Premier épisode, la vengeance dans la Bible et dans la mythologie grecque. Pour ce qui concerne la Bible, nous évoquerons aussi bien le corpus de la Bible hébraïque que les textes reconnus par le christianisme. Et le point nodal ici, c'est la fameuse loi du talion, de talio en latin qui veut dire représailles, œil pour œil, dent pour dent, mais aussi vie pour vie. Ces formules apparaissent à plusieurs endroits du Pentateuque, dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. S'agit-il d'appel à la vengeance ? Ou plutôt à la justice qui doit permettre d'arrêter le cycle infernal de la vengeance. Nous réfléchirons aussi aux textes chrétiens qui critiquent la loi du talion, n'y voyant que de la vengeance. Il y a notamment un passage célèbre de l'évangile de Matthieu que nous lirons. Et les Grecs alors, quelle vision de la vengeance et de la justice nous ont-ils légué ? Dans les Coéphores d'Eschyle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on trouve cette formule très proche de celle de la loi du talion, je cite, « qu'un coup meurtrier soit puni d'un coup meurtrier, au coupable le châtiment ». Alors, les mondes grecs et hébraïques auraient-ils plus de points communs qu'on l'imagine souvent ? Ou bien le tragique grec insiste-t-il d'une manière incomparable sur la mécanique délétère et infinie des vengeances en chaîne ? Pour parler de tout cela, j'accueille deux stars de cette émission, je le dis tout de suite, à chaque fois que vous venez, l'un ou l'autre, les prestations sont inoubliables. Bonjour Pierre Judé de la Combe.
Bonjour.
Helléniste, vous êtes l'auteur aux éditions Les Belles Lettres d'une nouvelle traduction de l'Iliade et de plusieurs pièces, dont Agamemnon d'Eschyle. Depuis 2022, vous produisez sur France Inter l'émission « Quand les dieux rôdaient sur la terre » consacrée à la mythologie grecque. Et bonjour Gérard Haddad.
Oh bonjour.
Psychanalyste, psychiatre, écrivain, vous connaissez très bien la Bible qui d'ailleurs ne cesse de vous inspirer pour réfléchir au processus psychique. Freud a cherché l'Œdipe dans la mythologie grecque. Eh bien vous, Gérard Haddad, vous revenez à Caïn pour penser les désirs fratricides. Vous avez aussi écrit sur la trahison, un livre qui paraît en ce mois de janvier 2025 aux éditions du Passeur. Pour analyser la vengeance dans la Bible et dans la mythologie grecque, commençons par la loi du talion, donc présentée souvent dans le Pentateuque, sous les formules je viens de les dire, un œil pour un œil, une vie pour une vie. Est-ce une logique qui doit permettre, Gérard Haddad, de réparer le mal commis et donc d'arrêter le cycle de la violence et de la vengeance ?
Écoutez, permettez-moi de vous dire d'emblée que tout le système mis en place par ce qu'on appelle l'Ancien Testament, par la Bible, c'est un système anti-vengeance. Dès les premiers pas, dès le meurtre d'Abel, Dieu dit, à propos de Caïn, il faudra pas y toucher. On lui met un signe sur le front, et voilà. Alors, ce que je dis là, c'est quoi ? C'est que, par exemple, à partir du moment de Noé, n'est-ce pas, à partir du déluge, on énonce ce qu'on appelle les sept lois de Noé, ce qu'on appelle les lois noachides. C'est sept lois. Une des sept lois, c'est pas de vengeance, tribunal. Il faut que toute société qui se tient, mais ça rejoint d'ailleurs ce que dit René Girard par l'autre côté, toute société qui tient sur ses pattes, il faut qu'elle ait des tribunaux. Ce sont les tribunaux qui rendent la justice. Alors sur quelle base ? Bon, alors cette histoire de loi du talion fait partie des lois qui doivent être mises. Mais encore une fois, faut-il examiner ça de plus près. Et le Talmud le fait dans un des traités, Baba Kama, et on le montre comment. On n'a pas le droit de casser une dent pour une dent. On n'a pas le droit de crever un œil pour un œil, etc. Et c'est commenté, discuté, etc.
On n'a pas le droit ou au contraire, c'est
on
bien ça
la loi. On n'a pas le droit.
Alors je comprends pas très bien. La loi elle dit un œil pour un œil.
Oui,
une
la
vie
loi
pour
dit. Vous parlez comme un des rabbins du Talmud. Il dit le rabbin. Le texte dit un œil pour un œil, mais il dit mais attendez, si c'est un borne qui crève un œil, l'autre est borne et l'autre qui est borne, si vous lui crevez son œil, vous le rendez aveugle. Donc il n'y a pas de justice. Un œil pour un œil, dans le Talmud, c'est bien précisé, ça veut dire indemnité financière. D'accord. Et elles sont précisées. Et il y en a six. pour la douleur, pour la perte d'un organe, pour les soins qu'il faut apporter, etc. Et donc, on n'a pas le droit de... Par exemple, vous avez commis une bêtise, vous avez griffé quelqu'un. Et ce quelqu'un se plaint, et vous arrivez au tribunal, vous dites, eh ben qu'il me griffe, on n'en parle plus. Eh ben non, c'est interdit. Il faut que vous payiez les indemnités qui correspondent.
Donc, on comprend mal.
On comprend très
si
mal.
Si on comprend... Un œil crevé, il faut répondre par un œil crevé.
Non.
Non, il faut répondre par d'abord quelque chose comme une institution au-dessus des parties qui décide quel est l'équivalent de l'œil crevé, mais pas au sens propre, quoi. L'équivalent en
monétaire.
Monétaire. Voilà. Normalement, c'est ça que ça dit.
C'est ce que dit le Talmud. Et c'est la loi, le Talmud, c'est la loi officielle du judaïsme. Et tout le judaïsme est construit, toute la Bible, toute notre société est construite au fond sur l'héritage biblique, sur ce plan-là. Pas sur d'autres, mais sur celui-là. C'est-à-dire des tribunaux, c'est-à-dire la justice. Il faut que ça soit documenté, que ça soit examiné, que ça soit étudié. On n'a pas le droit. Alors il faut d'abord distinguer la vengeance des individus ou la vengeance des collectifs, qui devient la guerre à ce moment-là. Et ça, il faut en parler.
Oui. Bon. Mais on pourra aussi parler du fait que, bien entendu, les instances supposées neutres, capables de rendre le droit, la justice, ne sont pas toujours écoutées. La Bible ne serait pas la Bible s'il n'y avait pas de croustillantes histoires de vengeance.
Mais le tribunal n'est pas constitué d'une personne. Il doit être constitué de plusieurs personnes. Et il y a le grand Sanhédrin, ils étaient 40. Bon. Et autre chose, c'est que si ce tribunal juge à l'unanimité, son jugement est annulé. Un jugement fait à l'unanimité ne peut pas être bon. Ça doit être, il y a un trafic là-dedans. Donc il faut qu'il y ait un opposant. Voilà. Alors, vous avez dit deux choses. Vous avez parlé du meurtre. Ça, c'est à part. Nous avons parlé des dégâts physiques. L'œil pour œil, dent pour dent. Mais mort pour mort, ça, c'est une autre loi.
C'est à chaque fois mis en même temps. Hein. Dans l'Exode,
oui,
tu perds à vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Dans le Lévitique, s'il frappe à mort un animal, il le remplacera. Vie pour vie. Et avant, si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. C'est encore là dans le Deutéronome. Ton œil sera sans pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc quand même, vie pour vie, c'est chaque fois là,
oui,
hein, dans la formule.
Mais devant le tribunal. Et si ce tribunal, il y a une parole célèbre d'un des plus grands maîtres du judaïsme, qui s'appelle Rabbi Akiva, dit, si le tribunal juge à l'unanimité qu'il faut tuer cette personne qui a commis un crime, eh ben, ce tribunal est formé d'assassins.
Donc la vie aussi, il faut essayer de voir comment on la répare quand elle a été ôtée à quelqu'un, sans à nouveau ôter la vie à quelqu'un.
C'est ça
que vous dites. Bon, on a tout à fait compris, évidemment, il y a plein d'histoires par qui vont nous intéresser, où malgré tout la vengeance advient, mais on a entendu l'analyse. Alors maintenant, Pierre-Judé de la Combe, comment ça se passe pour la mythologie grecque ? Car là, on a au contraire l'impression que, notamment avec ces personnages, vous allez nous expliquer qui elles sont, les Erinnyes, les dieux, elles sont un peu comme des sortes de déesses, enfin vous allez m'expliquer, là, l'idée qu'on venge concrètement, vie pour vie, n'est pas du tout un tabou. Au contraire, on a l'impression qu'il n'y a que ça dans la mythologie grecque. Est-ce que je me trompe ?
Je ne sais pas. Et je pense que les Grecs eux-mêmes ne savaient pas vraiment. Il y avait un débat tellement c'était compliqué. Parce que tout le problème, qu'on soit dans le cadre d'une vengeance ou d'une justice, avec un tribunal, c'est de faire en sorte qu'une douleur soit réparée. C'est-à-dire qu'il faut trouver une équivalence. Avec cette difficulté que le criminel aura toujours l'avantage parce que lui, il a réaliser cette douleur, et ça, on ne pourra pas l'effacer dans le temps. C'est ce que disait un sophiste Antiphon. Il dit, le criminel gagne toujours, même s'il est mis à mort ensuite. Mais alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que, comment penser cette équivalence? Alors là, effectivement, il y a le problème de tribunal, pas tribunal. Donc, puisque dans la vengeance, il n'y a pas de tiers, ou alors c'est un dieu. Quand on dit, tu dois tuer ta mère, qui a tué ton père, il faut qu'il y ait un dieu, parce que tuer sa mère, c'est quand même pas très facile. Donc on fait pas ça spontanément. Donc là, il faut une autorité. Mais ça se passe hors tribunal. Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a longtemps cru, les historiens ont dit ça dans une espèce de romantisme, que d'abord, il y avait la vengeance, donc c'est la vendetta, mais à l'intérieur d'une famille, Agamemnon tue sa fille, Clytemnestre tue Agamemnon, Oreste tue Clytemnestre, les Erinnyes doivent tuer Oreste. Bon, ça, c'est un enchaînement comme ça, on dit ça, c'était la forme primitive du droit, et ensuite est arrivé le droit politique, le droit public avec les institutions et le tribunal. C'est complètement faux. C'est pas ça du tout, puisque on n'a pas d'État de la société grecque où il n'y a pas de tribunaux. Et dans Homère, il y a des tribunaux. Homère connaissait ces histoires de vengeance familiale. Il dit en passant, on reste à tuer sa mère, mais ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment une institution fait société. Et alors, pour la vengeance, il y avait une autre pratique, et ça qui a été mise en valeur maintenant, analysée par un grand anthropologue du droit, Raymond Verdier, dans ses volumes avec son équipe sur la vengeance. C'est un système, d'abord, ce n'est pas à l'intérieur d'une famille, ça permet de faire des relations même économiques entre des familles différentes. Je t'ai tué quelqu'un, là il y a deux solutions, ou bien tu payes, et donc ça crée des échanges, ça crée un enrichissement de certaine manière, ou bien tu t'exiles, ou bien on te tue. Et donc ça c'est automatique d'une certaine manière. Alors que dans la vengeance qu'on a uniquement en réalité dans la tragédie et dans quelques fragments avant de poésie, on n'a pas ça dans la réalité. C'est une perversion de ce système de vengeance, du système vindicatoire, comme disent les anthropologues, et c'est une perversion de la justice. Par exemple, pour prendre la grande histoire de vengeance familiale qui va occuper les Grecs pendant longtemps, avec plein d'interprétations possibles entre Euripide, Sophocle, Pindare, ils seront pas d'accord, c'est l'histoire des Atrides. Bon, ça, c'est la grande, c'est le grand modèle, si on peut dire. Bon, il y a aussi Œdipe qui maudit ses fils et les frères s'entretuent, etc., comme Caïn et Abel. Mais je veux dire, c'est l'idée d'une faute héritée. Or, l'idée d'une faute héritée est moderne. Il n'y a pas ça chez Homère. Ça veut dire que le monde est rationnel, et donc s'il y a eu une lésion dans le temps, eh ben, elle reste. Et donc, on a des divinités qui sont les Erinies, qui vont faire payer ça. Alors, deux mots sur les Erinies.
Oui, qui sont-elles?
Alors, les Erinies.
D'abord, pourquoi des elles, d'ailleurs? C'est une vraie question aussi.
Ce sont des femmes terribles. Elles sont à la fois très jeunes, très vieilles et vierges. Parce que personne ne veut d'elles. Et les Erinies, ce sont donc, alors, ou bien elles sont nées de la castration du dieu Uranos, donc des gouttes de sang qui sont tombées du dieu Uranos, ou bien parfois, elles sont les filles de Nuit. Nuit, c'est la divinité du temps. C'est le nuit qui produit le jour, qui produit la destruction, qui produit la mort, qui produit les rêves, etc. Tout ce qui fait que on est ou dans l'illusion, dans la destruction, dans la guerre. Les Erinies, c'est le temps. Et alors justement, une fois, Ariane Nouchkine, elle montait les Euménides d'Eschyle, elle m'a demandé, mais pourquoi elles font peur? Alors j'ai dit, mais parce que les Erinies, c'est le passé oublié, ou parfois même pas oublié, mais qui peut surgir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'elles sont vierges, elles sont jeunes. Mais elles sont très vieilles, puisque ce sont les fautes du passé. Et alors Eschyle a fait un coup, c'est-à-dire que normalement les Erinies, elles punissent toute forme de déviance cosmique, et c'est surtout quand on s'est révolté contre les parents ou le frère aîné. Et lui, il les a limités, c'est les Erinies, c'est quand il y a un crime de sang, et quand le sang, celui qui a versé le sang est du même sang que sa victime. Et donc, le crime de sang, c'est le sang aussi du meurtrier. Et ce qu'elles exigent, c'est que c'est le sang du meurtrier. Donc, ce sont des vampires qui doivent venir pomper son sang comme ça, alors qu'il est vivant. Et donc, c'est la stricte équivalence. Alors, c'est là où, par rapport à ce que vous disiez sur la loi du talion, qui pose une équivalence, mais qui n'est pas matérielle. C'est une équivalence qu'il faut penser de manière abstraite. Donc, entre un fait matériel et ensuite de l'argent, par exemple. Là, c'est la stricte équivalence de manière substantielle. Le sang du meurtrier va payer pour le sang de la victime parce que c'est le même.
Et elles viennent tourmenter.
Alors elles viennent tourmenter les meurtriers,
les tueurs,
et donc elles les poursuivent à travers le monde
jusqu'à ce que quelqu'un venge leur crime.
Alors il faut qu'ensuite ce qu'elles alors elles font payer par le sang, donc le sang du meurtrier. Et donc alors là ça n'existe pas dans la réalité, c'est du mythe, c'est-à-dire c'est une manière très très particulière donc des poètes. Et aussi des philosophes, mais tous les penseurs du droit, de se dire, mais c'est quoi le droit? Même quand il y a un tribunal. Dans un tribunal, on dit, alors c'est la formule que Aristote va trouver simpliste, qui a agi doit subir. Alors on dit pas subir quoi, mais doit subir. Donc c'est un principe d'équivalence. Et donc c'est un principe d'égalité. Et Aristote dit, c'est un peu simpliste. Parce que, la justice, elle est rendue au nom du bien commun, d'une collectivité. Et le critère de la bonne justice, c'est pas cette équivalence stricte qu'on trouvera jamais, d'ailleurs. C'est que, est-ce que quand il y a eu une querelle, un différend, un grief, la société est divisée, donc, est-ce qu'elle va se reconstituer par l'acte du jugement? Et l'acte de jugement, c'est ce qui doit permettre la nouvelle harmonie. On a ça dans Homère. Un jugement se fait devant des juges qui sont assis, et c'est par acclamation. Alors, ils donnent chacun leur jugement, et c'est par acclamation du public qu'on sait quel est le meilleur jugement. Alors qu'avec les Erinni, il n'y a pas de tiers, donc simplement ce sont les dieux qui peuvent les envoyer. Zeus peut envoyer les Erinni, ou bon, ça pose problème. Mais je veux dire, c'est automatique. Et là où notre grand philosophe Hegel a bien vu, a trouvé génial, quand il a analysé ces mythes, il a dit, les Erinni, elles incarnent de manière substantielle, outrancière et complètement hallucinée le principe mécanique de la loi. La loi dit, tu as fait ça, tel voleur a fait ça, donc il doit subir ça. C'est mécanique.
Oui, on pourrait dire aussi, peut-être ce serait plus simple à comprendre, bon, c'est une suggestion, elles incarnent le mauvais en nous qui reste quand on a châtié devant un tribunal, sanctionné un tueur, il reste ces petites voix qui voudraient en fait que s'il a tué, il soit tué. Voilà, cette espèce
c'est
de voix.
C'est le refoulement, qui, c'est, un peu.
Voilà, Gérard Haddad, psychanalyste.
Oui, il y a quelque chose à voir avec le refoulement. Mais et je trouve ça très beau d'ailleurs, cette mythologie. Tout à l'heure, vous avez parlé de points communs. Nous en avons beaucoup. Entre le système biblique et le système grec, les points communs ne manquent pas. Hein. Il y a des intersections, des emprunts mutuels.
C'est le même monde.
Hein. Et c'est le même monde méditerranéen.
Et vous reconnaissez que si le système de la loi et du tribunal marchait très bien dans la Bible, on n'aurait pas autant de scènes de vengeance. Il y en a quand même beaucoup.
Parce que la loi est constamment transgressée. Mmh.
Donc il y a aussi l'inconscient, là, du désir de vengeance est omniprésent.
Absolument. Et donc la Bible est pleine d'histoires de vengeance brutales, sanglantes, qui sont condamnées.
Mmh. Alors, si je dis simplement pour rebondir, c'est que s'il y a de la vengeance familiale, comme ça, donc sanguinaire chez les Grecs, et ils en ont fait le sujet de plein de poèmes et de plein de tragédies, donc pour eux, alors qu'ils ne vivaient pas ça du tout, c'est que c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'ils se disaient, mais attention, donc vous avez parlé de cette mauvaise voie, mais c'est une bonne voie aussi, parce que quand simplement si le criminel peut s'en aller, on est furieux. Quelque chose a été loupé, et c'est pour ça que pendant les Euménides, où c'est le cœur, ce sont les Erinni qui veulent la peau ou le sang d'Oreste, elles sont sympathiques.
Alors vous allez m'expliquer, parce que là moi je ne comprends plus. Mais, et surtout, comment on passe des Erinni aux Eumédiennes. Mais vous savez, pour essayer de le comprendre, je vous propose qu'on rappelle tout simplement, on va y aller pas à pas. Donc Agamemnon, dans l'Orestie d'Eschyle, a sacrifié Iphigénie pour amadouer les dieux pendant la guerre de Troie. Eh bien, il sera tué par la mère d'Iphigénie, Clytemnestre. Elle-même sera ensuite tuée par ses enfants. Alors d'abord, écoutez, la vengeance de Clytemnestre, il s'agit d'une fiction radiophonique de 1949 sur la RTF, précisément intitulée « Les Erinni », qui adapte l'Orestie d'Eschyle.
J'ai tenu naguère le langage du moment. Je ne rougirai pas d'en changer. De quelle autre manière voulant me venger d'un ennemi qui paraissait m'être cher ? L'eussé-je entraîné dans un piège de malheur dont il ne put se dégager. Ce n'est pas d'aujourd'hui que mon antique haine méditait ce combat. Enfin le jour est venu. L'ennemi est arrivé où je l'attendais. Tout était prêt. Je ne le nie point. Il n'a pu ni fuir ni se défendre. Je l'ai enveloppé dans un superbe voile. Comme le poisson dans un filet sans issue. Deux fois je l'ai frappé, deux fois il a gémi. Ses genoux ont plié, il est tombé. Un troisième coup, offrande au dieu souterrain conservateur des morts, a précipité son âme dans les enfers. Son sang a jailli sur moi, douce rosée de mort dont les gouttes m'ont réjoui, comme la pluie du ciel réjouit la terre quand les germes de son sein vont éclore. Voilà ce que j'ai fait. Vieillards, soyez-en satisfaits ou non, je m'en glorifie. Que n'avais-je un instant de quoi répandre des libations sur son corps? J'en eusse répandu et avec justice.
Avec justice, entendez-vous, c'est Jacqueline Moran qui interprète Clytemnestre. Ce crime de vengeance est affiché comme un crime de justice. Mais c'est une justice qui n'arrête en rien le cycle de la vengeance. Écoutez sa fille Électre marteler que maintenant sa mère doit mourir pour avoir tué Agamemnon. Elle est en dialogue avec Oreste, son frère.
Jupiter, Jupiter, Fais donc sortir enfin des enfers la punition due à de coupables et parricides mortels. Quand jouirai-je des larmes amères de ces indignes époux à leur dernier soupir? C'est ma mère et je le sais, mais pourquoi me contraindre? Le dieu de la vengeance vole autour de moi. La fureur et la haine enflamment mon visage, embrasent mon cœur. Jupiter, qui retient ton bras puissant? Frappe, frappe des têtes criminelles. Fais-toi reconnaître à tes coups. Je demande justice de ces injustes mortels. Déesse qui vengez les morts, écoutez-moi. Le sang versé demande un autre sang. Ainsi le veut la loi. Erinys appelle la mort pour consoler les mânes irrités. Elle amène vengeance sur vengeance. Puissance de l'enfer, où êtes-vous? Imprécation des mourants, où est votre pouvoir? Voyez, voyez le reste impuissant des Atrides, honteusement chassés de leur palais. Jupiter, où sera notre refuge?
Mon cœur tressaille lorsque j'entends ces plaintes lamentables. Tantôt tes gémissements me jettent dans un noir désespoir. Tantôt ton audace qui s'anime suspend ma douleur et me rend l'espérance.
Oh ma mère, oh femme impie! Tu as osé ensevelir un roi sans le concours de son peuple, un époux sans larmes ni regrets.
Ah, ciel, que d'outrage tu m'apprends! Les dieux et cette main les lui feront payer bien cher. Que je périsse s'il le faut, mais après m'être vengé.
Germaine Montero interprète Électre, Jean Chevrier interprète Oreste. Le sang versé demande un autre sang, dit Électre. C'est sans fin, quoi. Il y a quand même un talent extraordinaire et presque une jouissance dans la mythologie grecque à nous raconter le bonheur atroce de venger encore du sang, qui appellera encore du sang, etc. C'est important, ça. C'est pas rien pour une civilisation, Pierre Judet de la Combe.
Ah non, c'est pas rien. Puis en plus, là, on a une traduction du XVIIIe siècle, juste après la terreur, quand même. Donc, on entend la mort du tyran, etc. Et le sang appelle le sang indéfiniment. Alors, simplement pour dire, c'est vrai que c'est pas très sympathique, de toute manière, si on se fait de la morale. Si Clytemnestre a tué son mari, c'est que son mari était criminel, même s'il a tué sa fille pour les dieux, et c'est au nom du droit. Il fallait bien que châtier Troie, donc il fallait que la flotte puisse partir. Pour ça, il fallait tuer Iphigénie.
Elle est vraiment morte, Iphigénie,
parce que... Alors, ça dépend des versions, quoi. Mais elle est où? C'est comme Isaac
c'est
ou pas?
C'est comme Isaac sacrifié par Abraham, qui, à la fin, Dieu remplace par un petit animal. Voilà. Iphigénie a été remplacée.
Alors, elle était remplacée dans certaines versions. Elle a été envoyée loin, en Colchide, donc chez Poutine, là.
Et je veux dire, il y a eu des opéras là-dessus.
Oui. Mais, pour Clytemnestre, c'est pareil, elle a disparu.
Oui.
Et donc, mais la personne qui aurait dû juger Agamemnon, dans un tribunal, et ça existait, c'est Agamemnon. C'est le roi juge. Or, le juge peut pas être le criminel. Donc, on peut pas juger Agamemnon. Ça veut dire, si Clytemnestre tue sa fille, c'est que, au nom de la justice de Zeus, de Jupiter, etc., pour aller châtier les Troyens, on a commis un crime qui, pour les dieux, est une offrande, simplement. Et donc, il n'y a aucune instance tierce qui permet, entre Agamemnon et Clytemnestre, qui permet de régler le problème. Il n'y a que la vengeance. Et à moins, elle a raison. Et elle dit, d'ailleurs, Clytemnestre, c'est extraordinaire, il a tué ma fille, et elle dit, dans le texte d'Eschyle, il a tué la douleur de mon accouchement. Donc il a tué la vie. C'est pour ça que quand elle le tue, elle la donne 3 coups, et le 3e coup, c'est une éjaculation de sang, de jouissance, c'est une scène sexuelle, parce qu'elle tue c'est le père de sa fille, c'est le procréateur, le géniteur, c'est ça qu'elle tue. Et donc ensuite elle dit, oh là là, maintenant c'est dangereux, faut que je négocie avec les Erinys. Alors les Erinys vont pas être d'accord. Mais je veux dire, et après Électre...
Alors les Erinys, elles excitent... Clytemnestre pour venger Iphigénie, et puis après elles excitent les enfants Électre et Oreste pour venger Clytemnestre, et puis elles excitent encore Oreste qui devient fou, à aller voir partout. Oui. Et là, ma question est la suivante. Pourquoi Athéna, si j'ai bien compris, est touchée soudain par la douleur d'Oreste et veut arrêter le cycle de la vengeance? Qu'est-ce qui lui arrive à Athéna?
Parce qu'il faut bien l'arrêter, sinon c'est vrai que c'est... Bon, après au reste, on voit plus très bien qu'il pourrait être, vidé de son sang. Mais je veux dire, il n'y a pas d'ordre. Et Athéna, c'est la déesse politique, qui, donc, de l'olivier, de la beauté de la nature, de la prospérité, elle veut l'ordre. Alors, et là, elle s'est dit à Athènes, puisque donc Oreste arrive souillé de sang encore à Athènes avec les Erinys assez basques, elle dit « je dois régler le problème ». Parce que, et c'est un problème immense, puisque Oreste a tué sa mère sur ordre d'Apollon, c'est-à-dire sur ordre de Zeus, Et les Erini sont les divinités nocturnes, donc c'est les divinités de l'inconscient, en réalité, c'est ce qui fait revenir le passé, etc. Et elles sont donc, ça peut être le désordre, même si elles représentent un ordre géométrique très strict, avec la vengeance, c'est A égale A égale A égale A, le crime égale le crime égale le crime, mais cette série, cette chaîne d'identité produit le désordre. Donc il faut
le tribunal dont parlait Gérard Halak.
Et
donc ce seront des citoyens d'Athènes qui vont voter.
Avec Athéna, parce qu'elle dit les mortels peuvent pas juger tout seuls, les dieux peuvent pas parce que les dieux sont antagonistes. Et il faut recréer l'unité entre l'Olympe, c'est-à-dire Apollon, Zeus, les divinités de l'ordre, et ces divinités du temps, que sont les Erini, les divinités de la vengeance. Et sinon, il n'y a pas de monde. Sinon, il n'y a pas de monde cohérent.
Oui.
Alors, ce qui est génialissime dans cette pièce, c'est que l'instauration d'un cosmos cohérent dépend de ce qui va se passer au tribunal.
Et c'est comme si le politique allait pouvoir arrêter la folie des dieux, parce que c'est quand même eux qui ont commencé cette histoire.
C'est les dieux qui ont lancé, alors ils étaient coincés, etc. Alors là, c'est magnifique, parce que donc elle crée un tribunal, c'est l'aréopage. Alors c'était un vieux mythe de naissance de cette instance pour un tribunal des crimes de sang. Les arguments donnés par les uns et les autres sont complètement fallacieux. Apollon dit non, Orestes n'a pas tué sa mère parce que la mère n'est pas la mère, la femme n'a pas de semence, il y a que l'homme, donc c'est simplement un lieu de résidence pour l'embryon, etc. Les Erini disent mais il a tué, or le sang appelle le sang, donc on est dans ce côté mécanique. Et Athéna, alors, et les Athéniens se partagent, ils donnent la majorité aux Erini d'ailleurs parce qu'ils ont peur. Et c'est Athéna qui dit, moi, j'ai pas de père. Je sais pas ce que c'est, donc, j'ai pas de mère, pardon. Je sais pas ce que c'est. Et donc, lapsus. N'interprétez pas le lapsus.
Oui.
Nous sommes pas dans un cabinet.
Donc, moi, je vote pour Orestes parce qu'il a tué sa mère et la mère, je m'en fous, en gros.
Donc, je voudrais dire un mot sur ces lapsus. Non pas le vôtre. Oui. Mais il y a dans ce que vous avez raconté quelque chose de très passionnant. La plainte de Clytemnestre. Le meurtre d'Iphigénie a un sens, c'est la profanation de quelque chose d'essentiel dans la féminité. C'est la féminité qui est détruite. J'en ai fait d'ailleurs un jour, il y a longtemps, un livre sur l'alcool. Une femme dont on a profané cette fonction sacrée, elle est tentée par l'alcoolisme. Et je pense que on est effectivement, c'est la scène politique. Il n'y a pas que le tribunal, il y a la scène politique.
Qui arrête la violence.
C'est là que les conflits, que ce soit caïnique, édipien, tout ce que vous voulez, c'est la scène politique qui doit gérer ça.
Mais vous êtes d'accord, Gérard Haddad, que lorsque Abraham obéit à Dieu, c'est le même problème, qu'il lui ordonne de sacrifier son fils Isaac, il se passera ce qui se passera, un peu comme pour Iphigénie, au dernier moment, peut-être que Dieu met en œuvre autre chose. Mais le problème de juger Abraham n'est pas posé dans la Bible.
Attendez, il y a un autre exemple dans la Bible qui rejoint celui d'Iphigénie.
Ou de venger Isaac, vous voyez.
C'est celui de Jephthé. Jephthé, il mène la guerre, là, contre je ne sais plus qui, contre les Philistins peut-être. Et il dit à Dieu, si tu m'accordes la victoire, je sacrifierai la chose qui viendra devant de moi quand je rentrerai chez moi. Et qui est-ce qui vient au-devant de lui? Sa fille. La fille de Jephthé, c'est toute une tragédie épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Là aussi, il y a des midrashim, des commentaires qui disent, il a été obligé de la sacrifier ou pas de la sacrifier. Dans le cas d'Abraham, et je trouve que le Coran là-dessus est très éclairant d'ailleurs. Un jour on en parlera, de l'osmose entre les juifs et les musulmans. Le Coran dit au fond, jamais Dieu n'a pu dire à Abraham, tu vas tuer ton fils. Il précise pas, il n'y a pas d'Ismaël, il n'y a pas d'Isaac. Il lui dit, il fait un rêve. C'est un rêve d'épreuve. Et c'est dans le rêve, comme dans un psychodrame, aujourd'hui on dirait, on met à l'épreuve la foi d'Abraham. Il n'a pas porté la main sur Isaac. Et bon, Lacan a commenté énormément cette scène de la Bible avec un séminaire qui a avorté. Le séminaire devait s'appeler Les Noms du Père. Et il n'a jamais eu lieu. Bon, ça c'est une autre.
En tout cas, Sarah n'est pas Clytemnestre.
Elle va mourir de ça. D'après des traditions juives, des midrashim, comme on dit, quand elle apprend ce que son mari a fait, elle meurt. Et d'ailleurs, il y a un très joli texte.
Elle meurt à la place d'Isaac, quasiment. C'est ça que vous
dites. Une mère qui est foudroyée, elle a attendu 100 ans pour avoir ce gosse, et on le lui sacrifie. Ouais. Mais il n'y a pas un coup plus mortel que ça. Alors, il y a une phrase très jolie de Isaac, au moment où il va être sacrifié, il dit, parce que c'est un holocauste, c'est-à-dire on doit mettre sur le feu le sacrifice, il ira descendre. Portez ses cendres à ma mère et dites-lui, voilà le parfum de ton fils. C'est un texte qui vraiment, des fois quand je le lis, à Kippour, on le lit souvent ça, on a envie de chialer, quoi.
Alors on va parler d'autres vengeances dans la Bible. Et notamment pour venger des douleurs de femmes, des viols. Oui. Ça, c'est quand même très impressionnant. Donc, Jacob a 12 fils et une fille, qui s'appelle
belle.
Dina.
Oui.
Elle était belle ?
Faut croire, pour qu'elle a attiré.
Je savais pas. En tout cas, elle est violée par quelqu'un du village à côté,
La ville de Sichem, voilà. Shrem, qui est aujourd'hui Naplouse.
Voilà, et donc, par un village qui n'est pas hébreu.
Il n'y avait pas d'hébreu à l'époque, il y avait des 12 enfants,
comment,
c'était tout.
Comment je dois dire ? Il n'est pas juif, comment je dois dire ?
Est-ce que c'est un viol ? C'est pas sûr. Peut-être c'est une séduction.
Enfin, elle se plaint, la dame, hein, quand même.
Elle se plaint pas. Ses frères qui se plaignent. Ouais. Elle, on n'entend pas parler de Dina. Donc ce prince tombe amoureux d'elle. L'a-t-il séduit ? Disons, il l'a violée, mais il est prêt à réparer. Lui et son père et
d'accord.
Tout.
Donc Jacob, là où on a le tiers, normalement, le monsieur légitime, le père.
Mon fils n'a pas voulu violer ta fille, il l'aime ta fille, il veut l'épouser.
Ça c'est le père du violeur, si je
oui,
peux dire.
Oui, le roi de Shrem.
Et le père de Dina dit, c'est Jacob, il dit, bon, écoutez, vous n'avez qu'à vous convertir.
Convertissez-vous, faites-vous circoncire, la conversion c'était ça, un coup de sécateur mal placé. Et puis voilà, tout sera dans l'ordre et on fera une alliance entre votre peuple et mon peuple. Et ainsi fut fait.
Il y a deux frères, deux énergumènes
parmi les fils, un qui s'appelait Siméon, l'autre qui s'appelait Lévi. Ils profitent du fait que trois jours après la circoncision, paraît-il, on se sent pas très bien. Mm-hmm. Et ils profitent de cet affaiblissement et ils exterminent tout le monde.
Oui,
c'est un génocide.
Vengeance. Qui suggère, alors la première lecture, c'est de dire. Ils ont pris beaucoup plus au sérieux la souffrance de Dina que ne l'a fait le père Jacob, qui finalement lui voulait lui faire épouser le violeur. Et donc, ils n'ont pas accepté la loi du père et ils ont vengé la sœur par un massacre. Avec toute la question posée, est-ce que le massacre, c'est l'œil qui correspond à l'œil perdu dans le viol ? C'est toujours le problème de l'équivalence. Et évidemment,
Que Jacob condamne cet acte.
Évidemment, c'est pas sa loi.
Non seulement il le condamne sur le moment, mais sur son lit de mort, donc bien des années plus tard, quand il va bénir tous ses enfants avant de mourir, et il dit « Ah, vous deux, vous nous avez fait une sale réputation dans le Moyen-Orient. » Enfin, il y a quelque chose comme de l'actualité là-dedans.
Votre analyse de tout ça, alors ?
Jacob condamne... Je pense qu'il y a cette violence chez les enfants de Jacob, chez certains en tout cas, qui peut les amener à vouloir tuer leur frère, Joseph, ce qu'ils veulent faire. Il a été sauvé par miracle. Parce que
ils l'ont vendu aux Égyptiens.
C'était une vengeance aussi.
Vengeance parce que lui... Parce qu'il était le fils préféré.
Préféré, mais lui, il cafardait ses frères aussi. Il disait à son père, tu sais ce qu'ils ont fait, ils ont fait des trucs comme ça. Donc, ils se sont vengés de lui.
Oui, mais vous pouvez pas vous en sortir uniquement par la violence des frères.
Non.
Il y a aussi, tout simplement, cette femme, quoi. Que quand même, Jacob, d'un certain point de vue, il a voulu lui faire épouser dans les bonnes formes du judaïsme de l'époque, si ce mot correspond, son violeur. Ils ne sont pas d'accord, les fils.
Il y avait une question politique. Il allait créer déjà une nation nouvelle, faite de l'alliance des tribus sémitiques et la conversion généralisée de toute la région.
En tout cas, en utilisant la
vengeance. Vous ne savez rien sur ce qu'a ressenti Dina. Peut-être qu'elle était très...
Moi, je ne sais rien.
Vous n'en savez rien, moi non plus. La Bible non plus n'en dit rien.
Il y en a une autre dont vous m'avez parlé avant
cette
émission.
Celle-là, c'est différent.
Pourquoi c'est différent ? On y va. Dans le
parce qu'elle, elle parle, elle dit, elle se plaint.
Alors, c'est une fille de David, le roi.
David, parce que David avait plusieurs enfants, plusieurs femmes. Et il en avait eu, je ne sais plus laquelle, des femmes, qui étaient très belles. D'ailleurs, les enfants sont magnifiques. Mm-hmm. Les enfants, c'est Absalom et une fille qui s'appelait Tamar. qui va devenir presque un mythe. Il y a même un roman du 19e siècle qui s'appelle Amnon et Tamar.
Oui.
Et donc Amnon est un fils, mais d'un autre lit.
Et il est mais aussi un fils de David.
Fils de David, d'accord. Mais pas de la même femme. D'accord. Donc c'est un demi-frère. Et donc il tombe amoureux de sa sœur. Enfin, il tombe amoureux. Il a envie de coucher avec elle.
Voilà.
Oui. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans son acte.
Oui.
Et donc elle dit, mais attends, c'est pas possible. On est frères et sœurs quand même. Et alors son conseiller lui dit, fais-toi passer pour malade. Et tu sais que Tamar, elle est très brave. C'est une gentille femme. Elle aime ses frères, comme souvent les sœurs. Et donc, je suis malade, je sais qu'il n'y a que toi qui peux me soigner. Tu vas me faire un bouillon de poulet, ou je ne sais pas ce qu'elle a proposé.
Chicken soup.
Oui. Ce qu'elle fait. Et elle lui amène, elle veut le servir, il est couché, il attrape sa sœur, elle se défend, elle dit des choses. Là, elle dit des choses. Ah. Mais c'est pas bien, on est des frères et sœurs.
Elle n'est pas d'accord, quoi.
Elle n'est pas d'accord.
On est d'accord.
Et oui. Il la viole. Et non seulement il la viole, mais là, c'est l'horreur absolue. C'est qu'une fois qu'il a eu sa petite affaire, il la jette du lit. Il l'humilie, il la jette comme un déchet. Et son frère Absalom apprend la chose. Il dit, voilà ce qui m'a fait le frère.
Et Absalom, qu'est-ce qu'il fait?
Absalom, c'est un personnage mythique, Absalom, puisque même Faulkner en a fait un livre, n'est-ce pas? Absalom. Il était très aimé par le roi David, parce qu'il était d'une beauté incroyable. Il avait des cheveux, paraît-il, très très longs, très blonds, très rouges, je ne sais pas quoi. Et pendant quelque temps, Absalom, il dit rien. Pendant quelques mois, quelques années, je crois, 2 ans. Et après, tout le monde a oublié. Oui, c'est fini, l'affaire est réglée. Bon, la pauvre, elle est dans son coin comme un... Bref. Et il organise, un peu comme les Atrides d'ailleurs, il organise un grand banquet. Et au cours du banquet, il tue son frère. Et il se sauve, et puis ça va être la révolte d'Absalom contre David. David va s'enfuir.
David, comme Jacob, d'une certaine façon, ne supporte pas le fils qui a vengé sa sœur. Les fils, en cas de Jacob, qui ont vengé la sœur. Donc il va obtenir la peau d'Absalom.
Et lui, il ne veut pas obtenir la peau d'Absalom. Il va écrire même un psaume célèbre où il pleure Absalom.
Ah, mais ces généraux ont entendu qu'il fallait quand même...
Oui, ben ce général qui a fait ça...
Tuer Absalom.
Qui s'appelait Yoav, d'ailleurs, ouais. Sur son lit de mort... David, qui avait des côtés pas très reluisants, il avait des côtés d'un poète, mais d'un autre côté, c'était un guerrier. Et puis, Leibovitz, mon cher ami Leibovitz, disait, voilà, sur son lit de mort, il va régler des comptes. Et il va dire à son fils, qui va être Salomon, qui d'ailleurs est un beau meurtrier, lui aussi, on va le voir, si vous voulez. Il lui dit, tu ne laisseras pas Yoav mourir de vieillesse. Mais ce Yoav t'a servi depuis que t'es jeune... contre Saül et contre... Il a demandé ce que Salomon exécute Yoav.
Mais Yoav, c'est celui qui a tué Absalom, c'est ça ?
C'est celui qui a tué Absalom. Mmh. C'était son général. Mmh. Voilà.
Bon, donc, quand ça ne marche pas bien, les institutions, les tribunaux...
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de tribunal.
Il n'y en a pas, puisque la vérité, c'est... Ou alors, il est contesté. Celui de Jacob est contesté par les fils. Il décide c'est quelque chose.
C'est pas un tribunal,
Jacob.
Ça.
C'est un compromis. Il n'est pas légitime. Alors, la vengeance se déchaîne. Et cette vengeance, ce qui est très troublant, évidemment, c'est là quelque chose qui vous tient à cœur, Gérard Haddad. Vous dites beaucoup que la Bible illustre les fratricides, les rivalités entre frères, Jacob et Ésaü, vous avez parlé de Joseph et ses frères, etc. Par contre, parfois, vis-à-vis d'une sœur, il y a des frères qui font preuve là d'une espèce de loyauté meurtrière, certes, et particulièrement meurtrière contre un autre frère éventuellement qui s'est mal comporté avec la sœur.
Oui, la relation entre frère et sœur, c'est une relation très complexe. Il y a cet amour de la sœur pour le frère, qu'on trouve dans Antigone d'ailleurs, quand elle dit au moment de chez Sophocle, hein, n'est-ce pas ? Elle dit, si ça avait été mon mari, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Si ça avait été mon enfant, j'aurais pas fait parce que j'aurais pu en faire d'autres. Mais c'est mon frère, et mon frère, on peut pas en faire d'autres. Cette relation de certaines sœurs, je dirais pas toutes, certaines sœurs pour les frères, et vice-versa, je pense, le frère comme étant... prenez le cas de Goethe, qui détestait tous ses frères et sœurs, qui a voulu leur mort, n'est-ce pas, dans ce fameux texte que Freud a commenté, dans Poésie et Vérité. une personne va échapper à cette haine de Goethe pour ses frères qui sont tous morts d'ailleurs, c'est sa sœur. Et il va écrire une pièce de théâtre sur sa sœur. Une des premières pièces que Goethe a écrite, c'est sur sa sœur.
Et au reste, Élect, son frère et sœur. Et
c'est de... très beau la relation frère et sœur. Je vous permettez-moi de dire, il y a un grand rabbin du Moyen-Âge qui s'appelait Nachmanide, kabbaliste, qui s'est un peu révolté contre Dieu et qui lui dit, au fond, pourquoi nous as-tu interdit d'épouser nos sœurs? C'était le mariage idéal. Épouser sa sœur, ça serait mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, etc., comme dirait le poète. Nachmanide dit, ça aurait été tellement bien si nous pouvions épouser nos sœurs, parce que c'est avec elles qu'on s'entend le mieux. C'est avec elles que Lacan aurait dit, aurait pu avoir un rapport sexuel, alors qu'il n'y a jamais de rapport sexuel, disait Lacan.
Est-ce que c'est ça, par hasard, qui va toucher Athéna, Pierre Judée de Lacombe, de voir Oreste et Électre si liés, qui vont venger leur père tué par leur mère. Et puis voilà, il y a un côté frère et sœur, et puis c'est bon là, il faut que ça s'arrête. Ils ne vont pas encore le payer.
Ça, je ne suis pas vraiment sûr. Je crois qu'Athéna, la sœur, ce n'est pas son problème. Elle est hyper virile, quoi. Mais ce qui est frappant, c'est effectivement, bon, puisque la sœur, c'est l'être menacé. C'est celle qui peut être violée en cas de défaite militaire. C'est celle qui sera emportée, c'est-à-dire violée par les vainqueurs, etc. Et donc, elle est menacée. Et le renversement qu'opère la tragédie, puisqu'on a des grandes sœurs, des sœurs qui sont vraiment costauds, quoi, c'est-à-dire Antigone et Électre, Iphigénie, qui prend la parole dans Euripide. C'est... Donc là, elles sont un contre-rôle. C'est paradoxalement, ce sont les filles les plus menacées qui peuvent être violées comme Cassandre, etc. Donc ça, les Grecs l'ont payé très cher. Le fait d'avoir violé Cassandre dans le temple d'Athéna pendant la prise de Troie, et ben, la plupart des Grecs ont été tués par Athéna, justement. Parce que ça ne devait pas se faire. Et je veux dire, mais ces filles tragiques, elles prennent la place des mecs, d'une certaine manière. Elles sont beaucoup plus viriles. Antigone, alors il y a toujours une contre-sœur, celle qui ne veut pas, qui est du côté du compromis, etc. Mmh. Ismène, Chrysothémis, tout ça. Mais et précisément, alors elles le sont, mais alors elles renversent les choses, et c'est comme ce que vous avez dit, cette phrase d'Antigone, qui dit ma loi, elle dit ma loi, mon nomos, ma loi qui fait que j'ai transgressé la loi de Créon, c'est que Polynice était unique. On pouvait pas en faire un autre, puisque mes parents sont morts, alors qu'un mari, si on peut en trouver un autre, et un enfant, on peut toujours en faire un autre. Alors Goethe, dont vous avez parlé, trouvait que ce passage était scandaleux, et il voulait qu'on le supprime, qu'on montre que c'était pas de Sophocle. Et moi, j'ai vu un philologue allemand qui essaie de démontrer que c'était pas de Sophocle, mais son argument, c'était que Goethe était contre. Alors que c'est la pointe même. C'est-à-dire que Antigone, d'abord, elle va contre Créon, qui parle de la loi, donc lui qui a une loi, c'est assez rationnel. Créon, c'est le politique prime. Sur la famille, sur l'amour, etc. Et Antigone va dire non, c'est la loi des morts, c'est la loi de la justice, la loi des enfers, la loi des dieux, les lois non écrites. Mais ça, elle fait un cours de droit à Créon. Puis après, au moment de mourir, elle dit non, ma loi, moi, c'est pas celle-là. Ça, j'ai répondu argument contre argument. Ma loi, moi, c'est que Polynice est unique. C'est-à-dire, je suis unique. Oui. C'est la même chose. Donc, on peut pas me remplacer. Et donc, c'est cette singularité absolue qui est défendue contre un ordre politique. Et ça, je trouve que bon, on a peut-être ça aussi dans les récits de la Bible, où à chaque fois le système normatif ne marche pas, est en crise, par défaillance ou tout ce qu'on veut. Alors, souvent en Grèce, c'est qu'il est contradictoire avec lui-même. Dans l'Iliade, il est contradictoire. C'est une vraie analyse du droit, quoi. Mais, et du coup, ça déchaîne les passions qui sont, alors, qui peuvent être.
Pour le singulier.
Alors, c'est le singulier qui apparaît.
Le droit de ne pas remplacer.
On construit ce qui n'est pas remplaçable. Oui, Achille n'est pas remplaçable. Oui. Iphigénie est remplacée. Alors, c'est d'ironie. Elle est remplacée par une biche. Dans certaines versions, mais elle va se retrouver donc en Colchide, en Tauride, pardon, c'est-à-dire en Crimée, où elle va faire payer aux Grecs ce qu'elle a subi. Elle n'a pas été tuée, mais ils ont voulu la tuer quand même. Elle va tuer tous les Grecs qui sont là, jusqu'au moment où c'est Oreste qui arrive. Et qui arrive sur un autel sanglant, il voit toutes ces têtes de Grecs qui ont été massacrées par sa sœur. Sa sœur qu'il n'a pas reconnue. Et donc là, il faut une reconnaissance entre le frère et la sœur, et on voit que, effectivement, la partie virile, c'est Iphigénie. C'est elle qui va sauver Oreste, etc., qui va trouver les arguments, tout ça. Parce que, précisément, c'est la phase menacée qui devient véritablement menaçante par vengeance. Elle se venge des Grecs en les massacrant systématiquement. Tout Grec arrive là et est égorgé.
Alors, j'ai donc bien la compris. Vengeance, c'est pas oui. bon.
Alors, la vengeance, alors oui, alors, non.
Justement, je voulais
enchaîner. Si c'est bon aussi. Faut la sauver, la vengeance.
Ah, alors, ce que j'entends là, dans ce que vous dites tous les deux, c'est que la loi du talion, on est parti de là. Normalement, on n'est pas une loi de la vengeance, c'est une loi de justice, où on répare, pas en nature, justement. On cherche un œil équivalent, mais qui n'est pas un œil, un deuxième œil crevé, pour réparer celui qui a eu un œil crevé. Et en même temps, vous avez dit l'un et l'autre, et peut-être c'est encore plus vrai, l'inconscient des Grecs transpire encore plus que la vengeance est un désir assez irrépressible. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Comment se fait-il que le christianisme, dans sa lecture de la loi du talion, lui, l'a tout à fait tiré vers la vengeance. Il ne vous a pas entendu, le christianisme, dire, Gérard Haddad, que c'est une loi de justice et pas de vengeance. Écoutez le très célèbre passage de l'évangile de Matthieu, où la loi du talion est évoquée.
Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que la Bible a dit de la vengeance? Qu'est-ce que les Grecs anciens ont dit de la vengeance? Nous en parlons ce matin avec Gérard Haddad et Pierre Judet de Lacombe. Nous venons d'entendre un extrait de l'évangile de Matthieu où on voit bien que la règle œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion est tirée par Matthieu vers la vengeance, vers quelque chose qu'il faut désormais refuser. Il faut même aller vers les tribunaux en lâchant toute velléité d'être... que l'on rende justice, tendre l'autre joue, le fameux tendre l'autre joue. Qu'est-ce qui se passe là ?
Matthieu, d'abord, est un humble pécheur qui n'avait pas beaucoup d'instructions.
Qui ça ?
Matthieu,
Matthieu.
De l'Évangile.
Oui.
Il n'a pas étudié le Talmud, la Mishnah même, puisque elle était de son époque. Et donc, il tient des propos qui sont d'un ignorant. Parce que normalement, la loi du talion, ce n'est pas ça. Mmh. Et c'est écrit très clairement dans la Mishnah, qui a été écrit dans la même époque que le christianisme. Ceci dit, ce texte, prenons-le tel qu'il est, dans sa beauté, parce qu'il n'est pas vilain, ce texte.
Il est extrêmement connu, surtout. Mais tendre surtout l'autre joue.
Ce qui n'a jamais été fait. C'est une position sacrificielle.
Oui. Pourquoi ? Parce que ça n'a jamais marché, la justice et la vengeance. Il n'y a plus que ça qui marche. C'est ce que votre ami René Girard aurait dit, vous le savez
c'est
mieux.
C'est pas mon ami, je le connais pas.
Ah, c'est pas le mien non plus. Mais vous l'avez cité, lui, et c'est son analyse. Vous le savez bien, c'est son analyse.
Oui. Je pense que la passion de Jésus, ça a été de vouloir... Si je prends le thème qu'à l'origine, le péché originel, c'est pas la pomme ou la poire ou je sais pas quoi qu'on a mangé dans le paradis, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, qui va se répercuter sur toutes les générations.
Oui.
La mission de Jésus, ça a été de dire, voilà, je suis je voudrais par ma mort payer le sang de Abel qui a été versé. Comme ça, avec mon sacrifice à moi, on arrête le cycle des violences, on arrête le cycle de la vengeance qui se répercute depuis des millénaires, depuis le meurtre d'Abel qui est resté. C'est comme ça que je lis le christianisme. Je pense que Jésus a voulu en finir, sortir l'humanité. Ça a été un échec total, puisque ça continue et commence sous nos yeux. Et en finir avec le meurtre d'Abel par Caïn et payer le prix de ce crime. Voilà.
Et est-ce qu'il est sorti, le christianisme, en tout cas dans l'intention, du monde juif, en tout cas tel que Gérard Haddad nous rappelle ses grandes règles, comme du monde grec? Qu'en pensez-vous, Pierre?
C'est compliqué parce que c'est vrai que cette phrase tend l'autre joue, c'est pas très grec, quoi, on n'imagine pas Achille faire ça. Mais mais c'est complexe parce que ces histoires qu'on a racontées, ça veut dire que le système du tribunal ne marche pas. Il y a quelque chose qui reste, comme vous disiez, si un criminel est absous, ben une petite peine, on n'est pas content parce qu'on sent un sentiment d'injustice. On sent que quelque chose n'a pas été pris en compte. Donc n'a pas été reconnu. Et la vengeance, paradoxalement, dont on sait qu'elle ne marche pas du tout, puisque c'est la violence qui engendre la violence, la vengeance avec ces histoires extraordinaires qu'on a dans Oedipe, enfin toutes ces histoires qui font la tragédie, qui font aussi une bonne partie de l'épopée quand même, ces histoires sont fabuleuses. On sait qu'elles sont périmées d'un point de vue normatif, disons de la bonne marge des sociétés, mais alors que le tribunal, en mettant des équivalences, annule le temps, annule la substance, la réalité concrète de ce qui a été vécu, première étape, deuxième étape, troisième étape, etc. Ces histoires de vengeance font ressortir tout ça. Et c'est ce qu'a fait Échille avec le Restier, donc les Euménides, la dernière pièce, qui raconte comment on a créé à Athènes, il a inventé le mythe, le tribunal qui va juger les crimes de sang. Je veux dire, il dit, mais attention, les Erinies, il faut pas les oublier. Elles sont affreuses, mais elles ont mille fois raison. Sauf qu'elles ont raison d'un point de vue dogmatique, géométrique, disons, de répétition du même. Mais elles expriment le temps, elles expriment le passé, elles expriment l'inconscient, les désirs. Et le coup de génie d'Athéna, qui n'est pas un coup conceptuel, c'est un coup de... Elle incorpore les Erinies dans la cité... Et les Erinies, ça va devenir...
Elles sont neutralisées, comme
elles sont...
ça, un
non,
petit peu,
non? Elles sont hyperactives.
Ah, d'accord, pardon.
Elles sont hyperactivées. Et c'est... elle dit, toutes les affaires intérieures de la cité, c'est vous.
Et c'est Euripide qui va les transformer en Euménides, lui,
c'est
autre chose.
C'est Échille, alors, qui... Donc, on va les appeler Euménides, les bienveillantes, d'où le titre du roman de Mendelssohn. Mais je veux dire, bienveillantes, souvent on appelait les Erinies bienveillantes, parce qu'on sait qu'elles sont hyper malveillantes. Donc on se disait, bon, là, par l'inverse...
Voilà.
Mais là, elles vont devenir... Alors, il n'y a pas le mot exactement, mais elles vont vouloir le bien de la cité... en faisant régner la terreur, c'est-à-dire que les Athéniens vont avoir peur de faire des transgressions, ils auront peur qu'une faute des ancêtres leur retombe dessus, mais je veux dire, ils feront attention, mais ce sont les Erinies, qui elles sont donc ces vierges absolues, qui vont être le principe de fécondité de la cité. Ça, c'est un renversement en dialectique, parce que elles vont permettre à la cité de prospérer. Donc elles vont permettre à Clytemnestre, à ce que représente Clytemnestre. Alors c'est vrai que c'est la féminité, mais c'est universel, Clytemnestre. C'est ce qui fait qu'il y a de l'être.
Les femmes, c'est universel.
Il y a de l'être. Et donc, voilà. Donc, faut garder la vengeance. Il faut garder non pas la vengeance en tant que système, mais ce que la vengeance, ça permet de montrer au jour.
Moi, je pense que la vengeance est retour à la barbarie.
Eh bien, très bien. On termine là-dessus avec Nicoletta.
Ça devait arriver, je le savais. Tu te croyais toujours plus fort. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Tu es là, couché sur le pavé, et tu es là, et tu ne m'entends pas, ça devait arriver. Je le savais, ça devait arriver. Je le savais. Tu avais beaucoup trop confiance en toi. Pourquoi, pourquoi? Tu n'avais peur de rien.
Merci beaucoup. Merci Pierre Judet, Lacombe et Gérard Haddad. On se quitte donc sur Nicoletta, ça devait arriver, 1967. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Comment définir le style ? Dans un petit livre intitulé « Le style de Descartes », le philosophe et spécialiste de Descartes, Denis Cambouchner, se livre à une analyse tout à fait surprenante à plusieurs égards de justement ce qu'il appelle le style de Descartes. Or, Descartes, comme certains grands philosophes rationalistes, comme Kant par exemple, Descartes n'est pas étudié du point de vue de son style. Et il y a chez Descartes des phrases qui semblent tellement gravées dans le marbre qu'elles n'ont plus de style. Ce sont en quelque sorte des vérités éternelles, universelles, qui ne dépendent pas d'une écriture qu'on pourrait réduire à la littérature. Par exemple, on parle du cogito de Descartes. On dit « je pense, je suis » ou « je pense, donc je suis », ce que d'ailleurs, Descartes n'a jamais écrit vraiment de cette façon-là. Il n'y aurait donc pas de style de Descartes, mais une pensée pure, en quelque sorte, directement universelle. Or, ce que nous montre Denis Cambouchner, qui vient aussi d'éditer les Pléiades de Descartes, c'est qu'il y a non seulement un style de Descartes, mais plusieurs façons de le penser. Et il rejoint même un usage du mot style qui surprend beaucoup et qui paraît très inattendu. Il examine, en effet, la capacité singulière, le style littéraire, au fond, la singularité littéraire de Descartes, mais aussi ce qu'il appelle le style Louis XIII de la phrase de Descartes, comme si la phrase de Descartes pouvait être comparée, c'est ce qu'il fait avec les torsades des chaises du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII, en effet, un style d'époque en quelque sorte, non seulement un style littéraire, mais un style historique. Que faut-il donc entendre par style ? Et cette expression style Louis XIII, comme on parle de style de tel ou tel meuble, de tel ou tel fauteuil, ou telle époque, est-elle compatible avec le style de Proust, le style de Descartes, le style de tel ou tel artiste ou écrivain en général ? Il nous faut donc une définition générale du style. Et je proposerai la suivante, je proposerai d'appeler style tout ce qui individualise une pratique ou une technique des êtres humains d'une manière reconnaissable par les autres humains. Le style est ce qui individualise une technique humaine et pas seulement la technique d'écriture, évidemment, ou la technique artistique. Au contraire, c'est peut-être ce par quoi une technique devient artistique. Le mot techné en grec, d'ailleurs, désignant l'art en général. Les humains produisent des choses et en plus, aurait-on envie de dire, il les individualise. C'est le vase fait par tel ou tel potier. C'est la parole, la façon de parler de telle ou telle personne. Le style est en effet individuel et il peut être individuel au sens du génie littéraire éternel de quelqu'un ou bien de l'époque. Lisons la première phrase du discours de la méthode. Il y a d'abord la phrase la plus connue de Descartes, une des plus connues, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Voilà une phrase qui semble éternelle, mais déjà, voilà, c'est du Descartes. Et puis, c'est les premières phrases de philosophie en français après Montaigne, dans la grande philosophie académique. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » Cette phrase est un peu plus compliqué, c'est le style torsadé des chaises Louis XIII, le style des philosophes, c'est à la fois la pensée universelle, la création singulière et l'histoire de l'humanité.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Philippine de Bélois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.